Try again.
Try again.
Welcome, welcome, bienvenue dans un nouveau numéro de Try Again. Je suis toujours entourée pour parler du jeu vidéo rétro de mes chroniqueurs de renom international française, quand même. Donc, Martin.
Bonsoir.
Ellie.
Salut les loulous.
Et Lionel.
Salut.
Et ce soir, c'est Lionel qui nous a choisi le jeu dont nous allons parler, que nous allons décortiquer, qui est Lionel.
Metal Gear Solid sur PlayStation. Le premier Metal Gear Solid sur PlayStation, mais pas le premier Metal Gear. Enfin, on verra après.
D'accord. On va donc parler infiltration, je suppose.
Et oui, ça, c'est qui va nous présenter tout ça.
C'est qui nous présentera tout ça. Enfin bon, comme vous le savez, comme d'habitude, on commence par de la musique pour se mettre dans le jeu. Et quoi de mieux pour commencer que l'introduction du jeu, qui est composée par Rika Muranaka et Tapi. Je ne sais pas qui c'est Tapi, mais enfin bon. C'est un drôle de nom pour un compositeur, ça doit être un pseudo.
Je pense que c'est un pseudo parce que c'est pas le tapis rouge qui nous déroule.
Et c'est pas Bernard non plus.
Allez, c'est parti.
M57 Radio. Try again.
A été courte cette musique, mais elle nous met dans l'ambiance. Mystère, infiltration, faire attention, etc. N'est-ce pas, Ellie ? Se cacher.
C'est
le thème.
C'est l'infiltration. Donc, c'est Insert Coin. Je vais vous parler un petit peu des jeux d'infiltration. Je vais vous parler un petit peu de la définition du terme. D'ailleurs, on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'un jeu d'infiltration, à votre avis ?
Je dois s'infiltrer.
Exactement.
Définition du Larousse, infiltration. Manière de s'infiltrer. Bon, ok.
Donc, jeu vidéo dans lequel la méthode de progression la plus efficace est la discrétion. Le but étant de progresser en évitant au maximum de se dévoiler. On parle de MGS-like. Donc, les Metal Gear Solid. Il a donné le nom au genre, quand même.
Et pourtant, Metal Gear Solid n'étant pas le premier, quoi.
Non, c'est le troisième.
Et oui. Ouais. Et c'est pas le seul, loin de là. D'ailleurs, on va y venir. Beaucoup de jeux. Donc, il y avait les Metal Gear sur NES. Tu veux en parler après ou
non, mais vas-y, pas spécifiquement, vas-y.
Bon, en fait, il y en a eu deux, il y a le Snake Revenge, donc le deuxième aussi. Donc c'était déjà une vidéo à l'époque, il fallait éviter les halos lumineux pour pas se faire repérer. Et ensuite, il y avait les chiens, ils te lâchaient les gardes, tout ça. Toi, tu l'avais fait le 1 sur NES, je crois.
Non, j'avais pas eu l'occasion. Je l'ai, effectivement, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Ouais.
Il est assez difficile. Moi, j'avais un petit peu progressé, mais je suis resté bloqué assez vite parce que. Pas évident.
L'infiltration, c'est pas facile, je suis désolée.
C'est pas que de l'infiltration, discret. En fait. Il y a un terme exact, d'ailleurs, pour ce nom de jeu-là. Je sais plus exactement, mais c'est un truc assez long.
Ouais, mais infiltration, je sais pas. Mais enfin, bon, moi, pour le fait est, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'infiltration, c'est quelque chose qui demande un minimum de patience, parce que généralement, en fait, t'attends un petit peu. Et aujourd'hui, moi, je suis plus dans l'action, dans les jeux, on fonce un peu dans le tas.
Et pourtant, c'est toi qui as choisi ce jeu.
Et pourtant, c'est moi qui ai choisi ce jeu, parce que j'ai bien aimé ce jeu, malgré tout, et c'est vrai que malgré mon genre un peu. On peut dire ça comme ça, à préférer les jeux d'action, celui-là m'a bien plu.
Et vous vous souvenez de Commando sur PC ? Donc c'était un jeu pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait plusieurs personnes, on les planquait en fait. Il y avait les nazis qui patrouillaient, et tu voyais en fait leur champ de vision. Et à partir de ça, tu pouvais savoir si tu risquais de te faire voir ou pas.
Tu m'avais déjà parlé de celui-là.
Ouais. Dans le même genre, il y avait Korea Forgotten Conflict.
Ce n'est pas
tout à fait le même genre, ouais. Pas très connu. Sinon, il y a les Splinter Cell qui sont vraiment le gros concurrent.
Évidemment,
des Metal Gear.
Ouais.
Ils sont arrivés bien après aussi.
Ouais, ils ont un peu copié d'ailleurs.
Oui, c'est venu plus tard et ils ont pris le style en ajoutant certaines choses. Comme tous les jeux, de toute façon, dès qu'un style naît, il y a quand même une tendance à reprendre ce qui existe et puis voilà, ouais, à réadapter. Je veux dire, comme même qu'on a des Mario Kart Lite, des jeux de plateforme qui reprennent voilà les bases.
Survival Horror,
voilà.
Street Fighter.
Il faut bien qu'il y en ait un. Il faut bien qu'il y en ait un qui innove, voilà, qui invente un genre ou qui réinvente un genre.
Il y a un genre. Voilà, puis après, il y a plein de dérivés, quoi. Il y a pas un titre.
Et puis des fois, il y a un génie qui invente un genre et c'est pour ça que c'est un génie. Bon. Et c'est tout, voilà. et c'est tout bon pour nous, quoi.
Ouais. C'est comme dans Assassin's Creed.
Oui.
Ça, forcément.
Il y a aussi des phases d'infiltration.
Ouais. Des grosses phases d'infiltration, ouais.
Plus moderne, mais là, vraiment, faut se planquer.
Beyond Good and Evil aussi, il y a des phases d'infiltration. Quand on rentre dans les bases pour prendre certaines photos qui vont être la preuve de ce qui se passe, des complots qui se passent, il y a des phases d'infiltration pas faciles aussi. Ouais.
Même dans Zelda Ocarina of Time, il y a plein de phases d'infiltration quand on est enfant dans
et
le château.
Encore, il y en a surtout dans le Wind Waker sur GameCube, il y en a beaucoup plus et qui sont bien plus longues, bien plus dures.
Et qui sont très frustrantes parce que quand tu te fais choper, tu retournes au tout début.
Un peu comme dans les Gerudo dans Ocarina of Time.
Et aussi,
battre contre les femmes, éviter celles qui étaient dehors.
Encore, c'est franchement les Gerudo dans OT, c'est simple comparé à Wind Waker. Fais Wind Waker si tu l'as pas fait.
C'est au programme.
Je t'invite à le faire.
C'est au programme.
Il y avait aussi, je crois, un jeu, je sais plus si c'est Tenchu ou quelque chose comme ça, un jeu de.
Ouais, t'es un ninja, il faut que tu te caches.
Voilà,
il y en a eu plusieurs et Tenchu.
Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Et c'est effectivement aussi de la grosse infiltration, mais un peu samo, enfin un peu ninja, quoi, aussi, c'est sympa, quoi.
Sinon, il y a Oddworld, le Dabe. Alors là, on peut carrément marcher sur la pointe des pieds pour pas réveiller les gardes ou pour passer. Des fois, il y a des endroits d'ombre où il faut se planquer dedans, rester. Si on voit pas le personnage, le garde le verra pas non plus, il peut passer juste devant. Ça, c'est sympa aussi. Alors, qui connaît le jeu 13 issu de la bande dessinée?
Moi.
Donc sur GameCube, PlayStation 2, il est sorti sur Xbox. Donc là, moi j'ai fait le jeu, j'ai bien apprécié. Il y a beaucoup d'infiltration aussi. On peut utiliser le sniper ou l'arbalète pour pas faire de bruit. Ensuite, on peut cacher les corps. D'ailleurs, c'est des fois une obligation. Sinon, on se fait attraper, ça donne l'alarme. Et après, ça tiraille de partout.
Ce que tu me dis là, ça me fait vachement penser à GoldenEye qui était notre première émission.
Là aussi, il y a un petit peu d'infiltration, les armes silencieuses. On pouvait, en fait, on avait le choix, on pouvait vraiment se jouer bourrin ou alors vraiment.
Donc ça dépend des niveaux aussi. Ça dépend des niveaux.
Moi je sais que GoldenEye, c'est le premier jeu qui m'a vraiment fait jouer de manière discrète, quoi. Où je me suis dit, voilà, maintenant je vais pas faire de bruit, je vais buter des caméras, je vais pas. Parce que je déclenchais une arme, tu avais des ennemis qui revenaient à l'infini, donc c'était ça, peu discrétion, quoi.
Donc il y avait des niveaux où tu pouvais y aller à la bourrin, d'autres où par contre, si tu vas à la bourrin, tu vas au casse-pipe, quoi. Je dirais. Il y en avait quelques-uns où c'était possible d'y aller bourrin, d'autres moins, quoi.
Ouais. Sinon, dans les RTS, alors là, c'est l'infiltration, c'est une obligation parce que la map elle est noire, donc là on n'a pas d'unité, on voit pas ce qu'il y a. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'infiltrer l'adversaire avec quelques unités discrètes pour contourner la base et attaquer à un endroit précis ou alors pour faire diversion.
Parles d'une partie intégrée, une petite partie. Effectivement, tu as des unités d'infiltration dans les RTS qui vont justement t'aider à dévoiler la map.
On rappelle RTS, pour ceux qui n'avaient pas vu nos précédentes émissions.
Real Time Strategy.
Voilà.
Donc
C'était sur Warcraft.
Effectivement, et souvent en plus, un petit peu marrant dans les RTS, c'est. Moi j'ai vu des joueurs jouer à un certain niveau. En gros, ils envoient une petite unité dans le camp adverse. Une petite unité pourrie, le péon d'Aze. Et en fait, du coup, ça déconcentre l'adversaire. Parce que automatiquement, il y a un mode attaque auto ou défense auto. C'est-à-dire qu'ils vont aller attaquer le petit péon au lieu de récolter des minerais, trucs comme ça. Ça va faire perdre du temps à l'adversaire, quoi.
Ouais, c'est très malin. Hein. Mais dans Alerte Rouge, il y a des sous-marins ou dans Warcraft 2 aussi. Alors les sous-marins, ils sont détectés généralement par les unités aériennes ou alors les tours de guet. Donc c'est aussi de l'infiltration de ce côté-là dans les RTS. Un grand classique.
Ok, ouais. On s'écoute de la musique comme d'habitude. On va écouter le thème principal du jeu, donc Metal Gear Solid. Et on se retrouve ensuite avec Lionel pour entrer dans le vif du sujet.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Prestart. Génération Prestart.
J'espère que vous prenez plaisir à nous écouter chaque semaine, et cette semaine en particulier pour Metal Gear Solid, et que vous êtes actifs, que vous vous activez sur le chat en ce moment. Normalement, on est avec vous, on essaye de dialoguer. Peut-être que vous retrouvez plein de souvenirs de jeux où il faut s'infiltrer et être discret. En attendant, je donne la parole à Lionel, puisque c'est lui qui a choisi ce jeu. Et en avant pour le Versus Mode.
Voilà, donc ce soir moi je vous parle de Metal Gear Solid sur PlayStation. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Metal Gear Solid c'est le troisième opus de la série. Si après on connaîtra des Metal Gear Solid 2, 3, 4 et autres spin-off vous aurez en fait c'est le troisième épisode de la série. Donc on a Metal Gear 1, le premier Metal Gear qui était sur NES, et le deuxième également sur NES. Donc Après, bizarrement, ils sont repartis sur les nouvelles bases à partir de l'épisode 3D qu'on présente ce soir. Et ils ont recommencé la numérotation à partir de Metal Gear Solid 1. Et voilà quoi. Bon, c'était un choix, je pense, de Hideo Kojima. Donc voilà.
Ouais, pourquoi pas. Hein.
Ouais. Donc le jeu est sorti en septembre 98 au Japon, en octobre de la même année aux USA, et en février de l'année suivante, donc en 99, en Europe chez nous. Donc il est développé et édité par Konami et conçu par Hideo Kojima. Et en fait, bon, c'est un peu le Metal Gear, c'est un peu le hit qui a révélé Kojima, en fait, quoi, qui a un peu sorti, parce que Kojima était déjà un développeur, il avait déjà quelques petits jeux actifs, je les ai plus en tête là, mais il avait déjà des petits trucs sympas derrière lui, mais c'est vraiment ce jeu qui l'a fait connaître du grand public, en quelque sorte, quoi. Donc à la base le jeu était prévu pour être développé sur 3DO. Et finalement, c'est sur PlayStation qui verra le jour, parce que bon, suite à l'échec commercial de la 3DO,
La 3DO,
c'est une console 64 bits qui a pas une longue vie, qui est vite morte, qui a
plein de concurrents de la PlayStation, de la Saturn.
Elle a dû avoir un jeu potable, il me semble que c'était Alien vs Predator, mais à part ça, je suis pas sûr d'en pouvoir en citer d'autres de bien dessus.
Oui.
Voilà. Donc finalement, donc c'est la PlayStation qui aura droit à son épisode de Metal Gear par cet épisode en 3D. Donc on a une 3D en fait un peu cinéma, c'est-à-dire qu'on a une vue du dessus qui est généralement orientée, c'est-à-dire on peut pas tourner la caméra
comme on veut
quoi, c'est une vue imposée. Alors par contre, c'est quand même de la 3D temps réel quoi, on a quand même tout un univers en 3D, tout est bien modélisé en 3D. C'est assez bien fait, assez bien réalisé,
Techniquement, dans l'ensemble, pour l'époque, ça tient la route.
Techniquement, voilà, les personnages sont pas trop mal faits, on a quand même un jeu qui est costaud, quoi, on va dire, niveau graphisme et niveau conception et tout, je trouve qu'il est plutôt sympa, quoi. Donc nous sommes donc, comme nous l'a dit Ellie, en présence aussi d'un jeu d'infiltration, donc qui permet aux joueurs d'incarner Solid Snake. Donc attention au spoil, son vrai nom, David. Il s'appelle David en vrai, c'est moins classe.
C'est moins classe. Hein. Ouais,
il a une voix grave.
Ouais, il a une grosse voix.
Et puis la barbe, la petite barbiche.
Oh. Ouais. Voilà. Alors bon. Ce jeu, c'est clairement assumé, c'est-à-dire que on est quand même en présence d'un jeu qui reprend tous les classiques en fait des films d'action des années 90. On a vraiment plein d'éléments déjà de la scène d'introduction. Exemple simple, on voit Snake qui arrive tout simplement en espèce de tube torpille sous-marine, en fait, quoi, une espèce de torpille sous-marine, quoi, un mini sous-marin, en fait.
Il est balancé par un sous-marin.
D'un sous-marin. Et il arrive comme ça en Alaska, sur l'île de Shadow Moses, où il doit effectuer sa mission. Et ça, c'est carrément une scène, mais elle est carrément presque repompée du film. Alors, je crois que c'est, je sais plus si c'est New York 99 ou si c'est Los Angeles 2013.
En fait, dans les deux cas, il y a cette scène-là. Dans les deux films, sachant que le premier c'était Escape from New York en version originale, et le second c'est Escape from LA.
T'es sûr qu'il vient par l'eau à chaque fois? Il n'y a pas une fois où il vient par le ciel?
La première fois, il vient par le ciel, mais c'est déjà par une torpille. En fait, c'est par l'exor de conduit d'aération. Et la deuxième fois, c'est par l'eau qu'il arrive.
C'est vraiment dans Los Angeles 2013 où, dans cet épisode-là, c'est vraiment la parodie copie conforme pratiquement.
C'est vrai que Kurt Russell ressemble.
C'est totalement assumé.
Et il y a ce genre de choses. Bon, voilà, il a la grosse voix un peu à la Rambo. Il y a la personne qui lui donne des ordres, qui a un colonel avec un béret. Même l'image, l'image du colonel, aussi, en fait, c'est carrément le colonel Trotman. C'est copié-collé pratiquement de l'image du personnage.
Moi, ce qui me frappe aussi dans le jeu quand tu le commences, c'est que tu commences à jouer alors qu'il y a encore le générique qui se défile.
Ça fait vraiment effet cinéma. Et le jeu est orienté comme film, quoi, avec un le scénario, tout est amené comme dans un film avec des éléments qui aiment ça un peu punchy, enfin qui viennent un peu rythmer le jeu, quoi, malgré le côté infiltration. C'est vraiment sympa, ça donne vraiment un côté assez énergique au jeu, quoi. Donc notre Elite Neck, qui est un commando d'élite spécialisé dans l'infiltration, ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande,
est
ancien membre de l'unité d'élite Foxhound, retraité de son état à la base. Il finalement va reprendre du service, hein, c'est un peu un cliché du jeu, mais bon. Mm-hmm. Ah, il avait peut-être pas suffisamment cotisé de trimestre,
mais c'est comme Rambo en fait.
Donc comme quoi les problèmes de retraite, hein, il avait déjà prévu chez Konami, c'était déjà d'actualité quand même à l'époque du jeu, voilà. Donc ils y avaient déjà pensé, comme quoi tous les concepteurs de jeux, dans la vraie vie, quoi.
Ils sont balèzes.
Mm-hmm. Voilà. Donc alors petit fait aussi, selon le caractère designer, donc Yoji Ishikawa, l'apparence physique de Snake est inspirée de Jean-Claude Van Damme. Du physique, voilà, quoi. Donc vraiment le corps, tandis que le visage serait basé sur le visage de Christopher Walken, donc un acteur américain, maintenant qui a un certain âge, mais
encore un retraité.
Tu connais pas Christopher Walken?
Si, tu le connais, tu l'as vu, mais il a souvent des petits rôles. Par exemple, il jouait le rôle de celui qui donne la télécommande, je crois, dans Click ou un truc comme ça, tu sais, qu'on avait vu.
Oh là là.
C'est possible. Il joue aussi le rôle d'un mafieux dans True Romance.
Oui, True Romance, mais il joue dans plein de films. Et en fait, il a souvent des rôles de méchant ou de trucs comme
ça. Il a un visage super charismatique pour les méchants, en fait. Ou alors un flic pourri, tu vois.
Ouais, d'accord.
Bref, et le nom est clairement inspiré. D'ailleurs, Snake est clairement inspiré et avoué Snake Plissken de New York 99 et Los Angeles 2013. Quoi.
97.
Ah, je croyais que c'était Snake. Tu sais, l'escargot en alsacien.
Ouais.
Non, c'est pas non.
Non. Bon, d'accord. Ok. Ça s'est fait. Donc alors l'histoire du jeu. Donc commence en 2005 en Alaska, donc où Snake est en fait envoyé pour mettre fin à une mutinerie des membres de l'unité des Foxhound dont il faisait partie, qui avait été démantelée puis reconstituée, et sous le commandement de Liquid Snake. Alors on apprendra plus tard que c'est le frère
de Solid.
Et le frère jumeau, mais il y a toute une histoire derrière. Alors j'ose pas trop vous en parler parce que ça dévoilerait vraiment la série. C'est vraiment du spoil. En fait, c'est le frère jumeau de Solid, mais ils ont été conçus en fait à partir de cellules d'un soldat légendaire, en fait, qui est Big Boss, qui est anciennement qui était aussi un Snake. Je crois que c'était aussi
c'était le boss de fin du premier, je crois.
Il apparaît aussi dans le premier, mais en fait il a été fait par rapport à ses cellules, et en fait tous les deux sont des frères jumeaux, quoi. Mm-hmm. Donc
parce qu'il y en a un qui est solide et l'autre qui
sont tous les deux issus en fait du même ADN plus ou moins, quoi. Donc c'est un peu compliqué, en gros, voilà.
Je suis ton père.
Voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu une scène comme ça, effectivement. Voilà, donc Liquid Snake, donc qui grâce à l'unité Foxhound a pris contrôle de la base militaire de l'île de Shadowmoses, et menace d'envoyer une bombe nucléaire sur Washington. Grand classique aussi.
Donc il y a le gentil frère, le méchant frère, quoi.
C'est un peu ça, voilà.
Sauf qu'au début, ils savent pas qu'ils sont frères.
Tu me ressembles.
Ils se ressemblent pas tellement que ça, parce qu'en fait ils ont un peu altéré l'ADN qu'ils leur ont donné à chacun. Ils leur ont pas donné forcément les mêmes caractéristiques.
Ça, c'est parce que Solid Snake il fume, tu sais.
Écoute, Kamal, tu nous en dis plus après la musique.
Ça marche.
On écoute Hind D.
N57 Radio.
Try again.
Try again.
Je sais que vous êtes actif sur notre chat de M57 toutes les semaines, mais n'oubliez pas aussi d'être actif sur notre forum www.forumtryagain.com et sur toutes nos pages Facebook, alors les pages personnelles et puis la page aussi de Try Again qui est nommée Try Again. Et cette semaine, Martin, si je ne me trompe, ce sera Soul Blade hein, en podcast hein.
Ouais.
Voilà. Donc là, vous pouvez, il y a déjà une belle panoplie d'émissions que vous pouvez réécouter.
Bah, il y en a les 4 premières, plus à chaque fois celles qu'on met toutes les semaines.
Voilà. En sachant qu'il faut quand même les écouter rapidement parce que
sont disponibles 3 semaines.
Voilà, 3 semaines.
Elles sont disponibles 3 semaines et puis après, elles sont plus là. Puis il y a plein de petits jeux sur notre forum, plein de petits trucs. Donc voilà.
Voilà, n'hésitez pas. Lionel.
Ouais,
versus
bah,
mode.
Merci. Donc voilà, donc là, je vous parlais de l'histoire, donc la mission de SNEC qui est donc de récupérer les avantages et d'empêcher le lancement des ogives nucléaires, quoi, et si possible de poutrer la gueule de tous les méchants.
Trop facile.
Easy. Voilà, donc système de jeu, donc vous contrôlez le personnage de Solid Snake qui débutera sa mission à poil parce qu'il part en freelance, hein, il a aucun soutien de.
J'aurais préféré vraiment à poil, moi.
Mais ouais.
Il a une tenue moulante quand même.
C'est un peu dur pour lui quand même parce qu'à poil en Alaska quand même, le pauvre, ça le met pas forcément, ça le mettrait peut-être pas forcément en valeur, quoi.
Je crois que les poils se seraient rissés aussi.
Ouais. Voilà. Donc il pourra récupérer armes et objets au fil de l'aventure, sous réserve de les trouver bien sûr, parce qu'il va falloir. Et surtout de prendre le risque de les récupérer, parce que vous allez être confronté quand même à toute une bande de méchants, si je puis dire.
Des gardes.
Vous évoluez vraiment en milieu hostile.
Terroriste.
Et donc, comme le mot infiltration le suggère fortement, vous devez rester discret. Ce qui sous-entend évidemment d'éviter de tomber l'année avec toute présence humaine hostile. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Enfin, en gros, c'est tout ce qui bouge pratiquement dans le jeu, quoi, à quelques exceptions près. Donc, vous aurez à votre disposition une sorte de radar, le Solicon, qui vous indiquera la position des ennemis, leur champ de vision. Et leur état, par exemple, s'il est intrigué, s'il est alerté, si voilà ce qui se passe, en gros, ça vous donne un aperçu de d'où sont les ennemis sur le dans votre environnement, quoi. Donc, si vous êtes repéré, le Solicon passe en mode alerte et vous vous retrouvez livré à vous-même en fait, car là, il y a plus de points, il y a plus de la carte disparaît en fait, la carte des ennemis disparaît, et donc vous devez juste vous planquer et attendre que le mode alerte passe. Donc une fois que le mode alerte passe, si ça repasse en
si
état évasion pendant
trouvé.
Un certain temps. Donc s'il vous voit plus, il se repasse en mode évasion. Et après, une fois que vous êtes sorti du mode évasion, ça repasse au mode normal. Les gardes retournent faire ce qu'ils veulent. C'est assez spécial quand même parce que bon du coup bon heureusement qu'ils retournent faire ce qu'ils veulent et qu'ils vous cherchent pas pendant 3 heures, sinon bon, vous feriez un peu brère, mais du coup c'est quand même bizarre parce qu'au bout de 5 minutes des fois bon bah même
ils
pas 2 minutes
comme les poissons rouges.
Voilà, c'est comme les poissons rouges, ils font un reset et ils repartent à leurs occupations, quoi. Donc après suffisamment de temps passé en mode évasion, donc ils retournent, voilà. Et puis tuer les ennemis n'est pas forcément recommandé, même si c'est possible une fois qu'on a une arme ou même des fois à main nue. Faut savoir qu'au début, quand on commence à poil, on se retrouve avec des ennemis qui ont des FAMAS. Bon, disons que si on peut les éviter, c'est pas plus mal, quoi. Surtout que reprendre de la vie se fera avec l'aide d'objets divers, donc je vais parler après, mais ils sont pas foison, enfin on les trouve pas à foison dans le jeu non plus, donc faut quand même s'économiser, quoi. Donc puis surtout le jeu est vraiment orienté autour de l'infiltration et le faire à la bourrin, bon ça enlève un peu du charme, quoi. Et puis surtout c'est pas forcément toujours facile. Bon, je pense qu'il y en a qui ont essayé,
ils ont eu des problèmes.
Voilà. Donc Et puis il faut pas oublier que faut garder suffisamment de vie aussi pour les boss qu'on va rencontrer au fur et à mesure du jeu, quoi.
Donc, il y a quand même des boss.
Ouais. Il y a des boss.
Ouais, ouais.
Donc voilà, pour passer entre les filets de Foxhound, donc le commando d'élite, vous pouvez ramper, vous accroupir, vous mettre au mur afin d'avoir une meilleure vue en fait sur ce qui se passe derrière, pour tout simplement pour vous cacher.
Afin d'avoir une meilleure sur le corps musculeux de Solid Snake.
C'est ce que toi tu veux.
Si tu veux.
Sur le fameux as.
Voilà, parce que en général, je disais qu'on pouvait pas déplacer la caméra, mais quand on se met dos au mur, généralement la caméra se place pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière en fait.
C'est automatique.
Voilà. Et Snake pourra aussi faire du bruit en tapant sur une paroi, par exemple, afin de détourner l'attention d'un garde de sa ronde habituelle et pour libérer le passage, quoi. Bon, à manier avec précaution aussi, parce que c'est le meilleur moyen de se faire capter bêtement. Hein, vous
vous tapez et puis vous vous rendez compte, oups, mais je peux pas passer de l'autre côté.
Qui fait de la filtration.
Ou alors vous en appelez un et puis vous vous retrouvez face à face à l'autre quand vous voulez fuir de l'autre côté. Bon, ça peut arriver, donc faut faire attention, c'est à manier avec précaution quand même, quoi. Donc pour vous familiariser avec tout ça, vous aurez même la possibilité de vous entraîner grâce au VR Mission. Donc VR, je pense pour Virtual Reality, j'ai pas regardé parce que j'avais pas la notice sous la main, qui vous propose des challenges de difficultés graduelles et qui vous mettent un peu en situation et qui vous apprennent à utiliser les différents mouvements, quoi. Donc c'est assez utile et en même temps je crois qu'on peut faire aussi un score, enfin on peut faire un peu du scoring, c'est-à-dire un peu on peut jouer au temps, donc on a un temps pour faire la mission, donc ça peut être un petit challenge supplémentaire, quoi, aussi, donc c'est sympa. Donc pour vous aider dans votre mission, vous aurez quelques objets donc disséminés à droite et à gauche dans les niveaux, ces derniers ayant généralement un intérêt pour le joueur, et donc il sera quand même préférable de les rechercher et si c'est possible de les utiliser à bon escient parce qu'ils sont pas illimités, quoi, je veux dire les munitions, les rations, on n'en retrouve pas à volonté dans les niveaux, quoi. Donc dans votre arsenal, vous aurez par exemple la possibilité de récupérer quelques armes, dont le SOCOM, le pistolet de base en fait, quoi, c'est un pistolet basique, le FAMAS, donc le fameux, le même que ceux qu'ont les ennemis, quoi, un espèce de fusil d'assaut, et le PSG1 qui est donc un fusil à lunettes.
C'est pas l'équipe de foot de Paris? L'équipe première?
Non, c'est pas ça. Donc c'est le PSG1 qui sera d'ailleurs utile dans les combats contre certains boss, dans un boss en particulier qui lui aussi, qui elle aussi même je dirais, est adepte de, du tir au pigeon, enfin du sniper, quoi. Donc on aura aussi des explosifs, C4, clé mort, grenades, des grenades à brouillage électronique, des grenades à fragmentation, des mines anti-char, enfin bon, etc., quoi. Et on aura aussi des rations comme aide, du diazépam. Alors le diazépam, c'est pour stabiliser son tir au sniper en fait, pour avoir une visée plus calée. C'est une espèce, en fait, un décontractant musculaire qui permet donc justement de d'être plus calme, plus reposé et donc de moins bouger, quoi. Donc on aura aussi des aides à la visée, enfin en tout cas à la vision, comme des jumelles, des lunettes thermiques, de la visée nocturne aussi qui sera très utile pour voir un peu dans les endroits un peu sombres, et la lunette thermique qui permettra de détecter les ennemis, et ainsi que divers camouflages, donc alors le carton et les, par exemple, et le camouflage optique. Alors le carton, c'est quand même l'objet culte de Metal Gear. C'est juste abusé. En gros, vous avez un carton, vous mettez dans un carton, vous mettez au milieu d'un chemin dans un carton. Si les ennemis vous ont pas vu vous planquer dedans, généralement ils vous voient pas. Alors des fois, si vous êtes vraiment sur le passage, ils se demandent un peu ce qu'il y a et ça peut arriver qu'ils regardent à l'intérieur. Mais des fois, c'est vraiment genre abusé. Vous mettez dans un coin dans le carton et le gars il capte rien. Genre vous, il y avait pas de carton il y a deux minutes, là il y a un carton.
Et puis j'imagine la taille du carton, c'est de se le transporter en plus sur le dos ou je ne sais quoi.
Ouais, bah il le met bizarrement en plus. C'est vraiment très très drôle, quoi. C'est un peu la joke de Metal Gear quand
même. Il peut avancer avec le carton.
Il peut avancer avec le carton, ouais. D'ailleurs, une de la scène cinématique de Smash Bros, puisque Snake est dans Smash Bros Brawl sur la Wii, il a justement une scène cinématique qui est juste risible où on le voit arriver dans son petit carton pourri
et sortir de son carton. Même en cosplay, tu vois des gens comme ça dans des cartons en convention. Moi, je l'ai vu, c'est juste génial.
On va faire ça. C'est écrit fragile dessus.
Non, c'est le cosplay le plus bateau à faire.
Tu prends un carton, tu prends juste les inscriptions qu'il y a sur le carton, puisque je sais plus ce qu'il y a marqué dessus, mais il y a une indication vraiment spécifique, c'est vraiment voilà, quoi.
Bon les mecs, on va s'infiltrer en musique.
Non, pas encore.
Ah pardon. Oh.
C'est pas grave.
Oh, je me fais engueuler, c'est vrai, la musique c'est un peu plus tard, le versus c'est les plus longs.
Ce soir, toi, hein.
Mais ouais,
on avait encore envie d'écouter un peu Lionel.
Moi je vais écouter Lionel, moi je
suis Lionel, allez, on s'infiltrera en musique plus tard.
C'est bon, hein. Une boulette. Alors voilà, donc à noter aussi, quand on finit le jeu une première fois, on récupère un objet, le bandana. Encore clin d'œil à Rambo, justement, hein, le fameux bandana.
Tortue,
quoi.
Ninja.
Non, parce qu'on ne le met pas sur les yeux celui-là, sinon on n'y verrait plus rien d'ailleurs. Ça ferait un peu parodie à la Hot Shot, n'est-ce pas? Donc. Ça vous permet en fait d'avoir munitions infinies sur toutes les armes que vous récupérez. Donc du coup ça donne un petit côté quand même plus action au jeu. On peut du coup orienter le plus action, quoi. Bon, c'est un choix après à faire, mais ça vous permet d'être plus tranquille et de vous balader en tuant plus facilement les ennemis, quoi. Donc voilà, donc alors maintenant on est dans un jeu d'infiltration, donc on est seul, mais pas tout à fait. Parce que bien que seul sur son terrain, sur le terrain, Solid Snake garde néanmoins contact avec d'autres protagonistes,
à l'aide d'un système de communication intra-auriculaire, parce que c'est sûr que s'il avait son téléphone sur portable qui sonnait au milieu de sa mission, alors qu'il est planqué derrière un mur, ça serait pas terrible. Donc il a un truc qui sonne effectivement, mais il y a que lui qui l'entend puisque c'est dans son oreille.
Voilà,
donc
classe.
Ça fait vibrer l'os de l'oreille interne, ouais. Et du coup il y a que lui qui l'entend.
Ça existe vraiment d'ailleurs.
Bon, par contre quand il parle c'est un peu con parce que effectivement là du coup pour le coup en fait il pourrait se faire capter, mais bon.
Mais c'est comme dans, je suis désolée, mais c'est dans Chuck, la série avec un espion, ils ont l'air toujours discrets parce qu'ils ont leur radio dans la montre, mais ce qu'ils n'ont pas compris c'est que mettre une montre sous la bouche c'est pas discret quoi, en fait quoi. Donc
c'est ça.
Oui, bah oui, bien sûr, ouais.
Mais ça c'est typique aux espions, hein.
Ah ouais, voilà, ouais, bah ils n'ont pas encore trouvé le moyen pour parler sans parler quoi. Bon, ça viendra. Et voilà, donc ses coéquipiers lui donneront des informations et l'assisteront à distance tout au long du jeu. Donc le fameux colonel Campbell, qui est la réplique, mais alors qui est collé du colonel Trentman, hein, ça a vraiment été revendiqué quoi. Natasha Romanenko, spécialiste en nucléaire, et ils vont aussi par exemple Mei Ling, qui permet de sauvegarder la partie. Et c'est elle aussi qui a inventé dans l'histoire le Solicon et le codec, qui est donc le codec qui est l'appareil de communication en fait.
Et donc il les drague quand il parle avec elle.
Ouais, il drague un petit peu.
Je connais pas trop là.
Il dragouille. Non, il dragouille clairement.
Elle dragouille aussi. Hein.
Ah bah attends, c'est le beau sec.
C'est souvent elle qui commence.
Il est quand même pas mal gaulé quoi le gars. Attends, 1m80, 90 là. Ouais.
Puis il se cache aussi, t'as oublié de dire, il se cache dans les placards. Alors peut-être qu'elles ont envie de faire un petit tour dans le casier.
Non mais pour tromper leur mari, c'est l'idéal.
Voilà, donc voilà un peu pour les protagonistes. Et on va également donc l'histoire nous entraînera dans tous les recoins de la base de Shadow Moon 6 à la recherche des différents otages qui vous renseigneront un peu sur la situation, qui vous apporteront différents éléments et tout ça, et qui nous aideront tout au long du jeu. Alors par exemple c'est le cas de Meryl Silverberg ou de Hal Emrich, un personnage culte de Metal Gear qui est surnommé Otacon. C'est un otaku quoi. Donc otaku c'est l'adepte, enfin c'est vraiment un terme japonais qui désigne l'adepte de jeux vidéo ou de manga très renfermé
d'animé,
sur
son, peu importe,
d'animé, quelque chose, un passionné par quelque chose. Ouais. Par exemple, on peut clairement dire que Martin est un otaku, hein, il y a pas
je
de problème,
l'assume.
Il l'a
revendique totalement.
C'est vraiment le personnage culte de la série Metal Gear quoi, vraiment il est assez mémorable à ce niveau-là quoi. Donc on rencontrera également par exemple le ninja, une espèce de ninja cybernétique qui, bien que n'étant pas de notre côté, viendra quand même nous filer un coup de main de temps en temps sur un truc. On l'affrontera dans un premier temps et puis finalement il viendra nous aider dans un second. Donc voilà. Et puis en termes d'ennemis charismatiques, le jeu n'est pas en reste non plus, car chaque boss a une petite particularité. Et puis bah on va retrouver par exemple Revolver Ocelot, donc spécialiste en armes à feu et interrogatoire musclé. Donc d'ailleurs, le déroulement de l'interrogatoire subi par Snake durant le jeu sera déterminant pour la fin de l'histoire, la fin du jeu en fait. Il n'y aura pas tout à fait le même ending en fonction de comment on aura résisté ou non à l'interrogatoire en fait.
Comment on fait pour
c'est
résister
pas mal, ça.
Déjà, il faut arriver avec suffisamment de vie à l'interrogatoire apparemment. Et je sais pas s'il faut pas bourriner un bouton ou quelque chose comme ça. Il y a une manipulation à faire.
C'est pas par rapport au dialogue que tu fais ou quelque chose quoi.
Je crois que c'est quelque chose, il me semble.
C'est plus genre. Comment on appelle ça maintenant,
un genre de quick time event.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais je suis plus sûr exactement, ça fait longtemps, mais j'ai pas eu le courage de retourner jusque là. Mais et du coup, bon, mais il me semble que c'était un truc comme ça. Enfin bon, c'est okay. Quelque chose du style. Faut résister. En gros, il y a plusieurs parties.
En plus, toi, tu bourrines vite le bouton. T'as dû résister facilement.
Je bourrine vite. Ouais. Non, effectivement, je pense que j'ai la bonne fin du jeu à l'époque.
Ouais.
Donc voilà. Donc Sniper Wolf aussi, on va rencontrer. C'est donc la fameuse tireuse d'élite qui elle prend
et ça te paye
Eli, ouais, ça
pas du tout,
qui elle, et en plus elle est accro justement au diazépam dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'en fait elle en prenait régulièrement pour ce qui permettait de se relaxer et de rester sans dormir en fait pendant plusieurs, d'être suffisamment relaxé pour pas avoir besoin de dormir.
Bon, les réflexes en prennent un coup aussi,
mais bon, disons
que
pour le sniper t'as pas forcément besoin de réflexes, t'as besoin de précision et donc de pas bouger quoi. Donc donc voilà, c'est ce qui lui. Donc elle, et du coup finalement elle est devenue addict à ses calmants, et donc elle en prend.
Alors qu'il serait tellement simple que de faire du yoga à la place.
Non, mais il l'a dit, elle prenait un coup pour s'endormir. J'ai noté moi.
Voilà, donc un des combats les plus mémorables de mon
point de vue en tout cas, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup, de par son originalité, c'est celui contre Psycho Mantis.
Ah.
Alors ce dernier, en fait, il a des pouvoirs psychiques qui vont de la télékinésie à la télépathie, ce qui en fait un adversaire redoutable capable de prévoir tous les mouvements du joueur. Donc, fait amusant d'ailleurs, il est même capable de lire la carte mémoire et détecter les éventuels jeux Konami sauvegardés sur la carte. Donc, si vous avez joué à des jeux Konami et que vous avez une sauvegarde sur la même carte mémoire, le personnage va vous dire je vois que tu es machin, enfin que tu en gros que tu joues
Castlevania,
que tu aimes bien
contrats,
ça, voilà, des jeux comme ça. Que et c'était assez rigolo, quoi. Moi, j'étais un peu déçu parce qu'à l'époque quand j'avais fait le jeu, petite anecdote personnelle, j'avais pas de jeu Konami. Enfin, en tout cas, j'avais plusieurs cartes mémoire, mais jeux Konami n'étaient pas sauvegardés sur la cartouche. Du coup, je ne le savais pas tout de suite. Je l'ai appris plus tard et du coup, j'avais une sauvegarde avant. J'avais copié une sauvegarde Konami pour voir ce qu'il me disait pendant ce fameux combat lorsqu'on l'affronte. D'ailleurs, on l'affronte à deux reprises. Et donc, problème, vous me direz, comment on fait pour battre un ennemi qui prévoit tous vos faits et gestes, en fait, c'est-à-dire qui anticipe tous vos déplacements, qui sait où vous allez et qui se déplace en fonction, quoi.
Je connais la réponse, alors je vais pas spoiler ta critique.
On arrête de bouger.
Bah, on arrête de bouger, oui, mais non, mais il sait que tu vas arrêter de bouger, il va venir te poutrer là où t'es, quoi. Donc, ça marche pas vraiment, quoi. Donc, du coup, le seul moyen de le tuer, c'est de ruser, en fait, avec la console à proprement parler. C'est-à-dire que les concepteurs ont mis en place un système pour plus qu'ils puissent lire ce que vous faites avec la manette, faut changer la manette de port.
Faut la débrancher du port 1 pour la brancher sur le port 2, c'est ça?
C'est ça.
C'est vraiment le truc, gros truc dégueulasse, que si tu trouves pas, et ben ton jeu, tu le finis jamais, quoi.
Mais tu peux pas finir autrement, et pas moyen?
Ah non.
Il te donne pas des indices pour le faire?
Si, il te parle.
Ah, j'allais dire.
Et il te donne des petits. Mais faut. Enfin, les indices, en gros, c'est quand vraiment il voit. Quand vraiment il voit que tu galères comme un porc, que ça fait un petit moment que t'es là à tourner autour, et il te commence à te prévenir, voilà, à te dire machin, voilà.
Si le port manette 2 marche pas,
tu l'as dans l'os. Donc voilà, donc on en vient là à un point important maintenant, bon, parce que je vais passer un peu à la petite conclusion. C'est pourquoi le jeu s'appelle Metal Gear?
Eh, quand même!
Eh ouais, quand même! Ouais. Bah, c'est bien, c'est simplement le nom d'un blindé lanceur d'ogives nucléaires mobile. Donc, c'est un genre de D-209, hein, pour ceux qui ont vu Robocop. Voilà. Donc, on découvrira que l'île de Shadow Moses en abrite un modèle qui permettra à celui qui le contrôle de lancer, en fait, une attaque nucléaire de n'importe quel endroit dans le monde. Enfin, sur Terre, hein, parce que je suis pas sûr que le Metal Gear Rex, celui dans l'épisode là, maîtrise vraiment la brasse coulée, vu sa taille et son poids. Mais, bon, après, on verra qu'il y a d'autres modèles, etc., au fur et à mesure des épisodes. Donc voilà pourquoi Metal Gear. Le Metal Gear, c'est le nom de code de cette espèce d'arme lanceur.
Gros méchant, lanceur de missiles.
Et ben moi, j'ai plus envie de mettre de musique maintenant. Je fais la tronche parce qu'on peut pas passer de musique quand on veut.
Mais arrête de faire la tronche, Mini.
Oh, allez,
on
t'autorise.
Les gens, ils attendent la musique,
allez.
Maintenant, tu comprends.
Encounter, allez, parce que c'est bien parce que vous pleurez pour la voir.
M57, un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
It's and move.
It's and move.
Prestart. Génération Prestart.
Alors Martin, que nous as-tu préparé pour notre reload sur Metal Gear Solid ?
Eh bien ce soir, je vais commencer par les questions des auditeurs, parce que nous avons des questions de plusieurs auditeurs, et j'en ai sélectionné quelques-unes, pas toutes, quelques-unes. Donc je vais commencer par une question de l'ami Plouplou, qui nous dit, je le cite, « Ayant fait le remake sur GameCube, je voulais savoir si l'intégralité du jeu a été simplement recopiée, je passe l'aspect graphique et les scènes cinématiques, ou s'il y a des passages qui restent tout de même inédits à l'original. » Lionel, là je pense que c'est toi qui peux répondre mieux que personne.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que au niveau de la trame du jeu, les jeux sont pratiquement identiques à part quelques petites, comme il dit, il y a des cinématiques qui sont devenues des moments in-game, ou plutôt des moments in-game qui sont devenus des petites cinématiques. Donc il y a quelques petites différences à ce niveau-là. Après, le déroulement du jeu est pour moi quasiment identique. Mais si on regarde les différences qu'il y a entre les jeux, moi j'ai un peu cherché, j'en ai trouvé pour à peu près 6 pages, donc je vais vous les passer.
Dis-nous les plus marquantes pour
voilà.
toi.
Les plus marquantes, alors déjà, une des principales nouveautés, c'est en fait que pour le jeu Metal Gear Solid Twin Snake sur la GameCube, la réédition, ils ont repris en fait le gameplay de Metal Gear Solid 2 et non pas du 1. Donc en fait, vous avez des mouvements qui étaient pas possibles dans Metal Gear Solid qui le sont maintenant, comme par exemple se suspendre ou se déplacer quand on est accroupi contre un mur ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de petites choses qu'ils ont rajoutées au niveau du déplacement. Il y a aussi la visée à la première personne. C'est-à-dire que dans l'ancien Metal Gear, on pouvait regarder à la première personne. Par contre, on pouvait pas viser en ce mode-là et tirer au pistolet.
C'est utile ça ?
Bah, de viser
je crois
à la première
sur un
personne,
boss, c'est super utile. Il y a un boss, il me semble, c'est vraiment méga, méga utile.
Ouais. Mmh. Et du coup, pareil, ils ont changé pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, ils ont rajouté aussi d'autres fonctionnalités au niveau de la détection quand vous êtes détecté par un ennemi. Dans l'ancien, ça passait automatiquement en mode alerte. En fait, là, ça passe en mode alerte que à partir du moment où l'ennemi donne l'alerte à ses coéquipiers, en fait. Donc le jeu, par contre, revient pas automatiquement en mode. En fait, il sort du mode alerte seulement quand les ennemis ont fini de vous voir, quoi. Enfin, quand ils sont passés à autre chose, c'est un peu différent. Ils ont plus tout à fait la même façon de gérer la phase
leur
d'alerte.
La mémoire
quoi.
De poisson rouge, en fait.
Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu différent quoi.
Et donc sur Cube, c'est plus difficile.
C'est beaucoup plus difficile. L'intelligence artificielle des ennemis a été augmentée, le jeu est beaucoup plus dur. Moi, je l'ai clairement expérimenté la dernière fois, j'avais l'impression d'être vraiment devenu mauvais.
On a vu ça.
N'est-ce pas? Et en fait, c'est parce que c'est pas du tout le même schéma au niveau des ennemis. Ils ont plus la même intelligence artificielle. Il y a des choses qu'ils voient, qu'ils voyaient pas avant, ou c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a aussi, ils ont intégré les casiers, par exemple. Alors ça, les casiers, on peut cacher les corps dedans. Pareil pour les portes des toilettes. Ça n'existait pas dans le Metal Gear. C'est repris de Metal Gear Solid 2.
Il y avait pas de porte sur les toilettes. Tu pouvais tout voir.
Ouais.
Non, tu pouvais pas tout voir. Tu pouvais pas cacher tes ennemis dedans.
Ouais.
De même que je vous parlais tout à l'heure de Psycho Mantis, qui était censé détecter certains jeux, Konami principalement. Bah là, sur ce coup-là, il détecte d'autres types de jeux. Par exemple, Super Smash Bros. Melee, Mario Sunshine, Legend of Zelda, Eternal Darkness. Un autre fait marquant aussi, c'est qu'ils ont rajouté un mode de difficulté very easy, donc très facile, et ils ont supprimé les versions. Donc les modes, les trucs d'entraînement en fait.
Ouais.
On n'a plus la possibilité de s'entraîner avant. Après, il y a des différences au niveau de la gestion de la vie. En gros, on retrouve toute la vie à avoir combattu un boss, des trucs comme ça. Ah oui, ils ont un petit truc marrant aussi qu'ils ont mis. Ils ont ajouté un livre qui permet de distraire les gardes. En gros, un petit livre coquin en quelque sorte, et qu'on peut jeter pour distraire les gardes. Et sur ce livre, en fait, il y a une photo d'Alex Roavas. Le personnage principal de Eternal Darkness Sanity's Requiem.
Ah oui.
Elle est la mignonne. Belle blonde.
Elle est mignonne.
Donc voilà. Donc comme dit, j'en passe, c'est des meilleurs. Plein de choses ont été changées dans les cinématiques, y compris dans les cinématiques de fin. Ils ont changé plein de changements mineurs.
Donc en fait, il y a eu énormément de changements.
Pas forcément majeurs, mais il y en a eu plein.
Moi, je me souviens avoir entendu parler de quelques clins d'œil où on peut apercevoir
une GameCube.
Un Mario, un Yoshi, une tenue de Samus Aran.
Et une GameCube aussi, à la place d'une là où il y avait une PlayStation, dans la version PlayStation.
D'accord, plein de petits trucs comme ça, voilà, qui fait qu'en fait le jeu a vraiment été retravaillé et que c'est pas juste une simple conversion.
Et ils sont parlé effectivement de ce qu'ils disaient, des graphismes et des cinématiques.
Oui, voilà, mais que la plus grosse différence était en fait le gameplay. Et la difficulté qui ont été rehaussées.
C'est ça.
Ok, alors ensuite on a une autre question, ce coup-ci de notre auditeur le plus fidèle, je pense, Alex, le plus grand poseur de questions pour notre émission, salut à toi. L'histoire se déroulant en 2005, peut-on dire que le futur du passé correspond au passé du présent? Et alors là, Obi-Wan Kenobi et Jean-Claude Van Damme te répondent oui.
C'est une démerde avec ça.
Voilà. Et enfin, dernière question que j'ai retenue, le héros est-il inspiré par des personnages réels? Et alors là, je répondrai oui et non, parce que comme on l'a dit avant, il est clairement inspiré de Snake Plissken, au point que Hideo Kojima a même écrit à John Carpenter, qui a donc réalisé les deux films que sont Escape from LA et Escape from Los Angeles from New York, les deux. Enfin, là, j'ai dit à l'envers, mais dans l'autre sens. Et en fait, suite à la lettre de Hideo Kojima, John Carpenter lui a répondu en fait que Hideo Kojima a demandé la bénédiction pour le jeu, il l'a eu, et il lui a dit voilà pourquoi pas, parce qu'il trouvait que c'est quelqu'un de très sympa. Donc c'est totalement assumé que Snake Plissken et Snake sont en fait presque le même personnage, si tu veux. Et il y a encore plein d'autres choses comme ça, le fait que Bigos, dont on parlait avant, de méchant charismatique, encore un bandeau, le tatouage sur le corps de Snake.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a le tatouage du serpent?
Le tatouage, il l'a, mais seulement dans une des dernières versions. On retrouve aussi, moi ça m'a marqué, quand tu démarres le jeu, que tu regardes les cinématiques de briefing, au début, et ben Snake se fait piquer pour avoir
il se fait injecter le virus Foxdye.
Il se fait injecter
un virus qui peut provoquer sa mort ou la mort des gens qui l'entourent.
Et dans les deux films, il y a exactement la même chose, où effectivement Kurt Russell reçoit une piqûre. Une fois c'était une fausse, je crois que les deux fois c'est une fausse, il me semble.
Je crois qu'il y a une vraie
voilà, dans le premier film c'est une vraie, dans la seconde c'est un leurre, où effectivement pour l'obliger à revenir
à
et avoir une antidote. Voilà. Donc en fait, il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui ont été faits. Et en cherchant un peu plus loin sur internet, j'ai découvert qu'ils allaient faire un remake du premier film New York 1997 bientôt. Et moi, ça m'a fait penser à un petit sujet tout bête, à une question simple à laquelle j'ai envie de connaître votre avis. C'est que pensez-vous en fait des remakes en jeux vidéo? C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on en parle dans Try Again. On a eu des. Je m'en ai parlé pour Kirby, là on en parle pour Metal Gear, on en a parlé pour Crazy Taxi. Voilà, il y a plein de jeux en fait qui ont droit à des remakes. Mais est-ce qu'ils ont tous réellement un intérêt? Comme des fois c'est des films qui sont refaits, ou est-ce qu'au contraire ils ne devraient pas plutôt se dire on va plus faire une suite, un nouveau concept, que de nous ressortir des bons vieux titres? On l'a encore plus récemment avec des jeux comme Beyond Good and Evil, ils vont faire le 2, le premier va être entièrement refait, remasterisé, qu'on peut l'avoir de téléchargement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue là-dessus par rapport à ces remakes de jeux? Je parle bien de remakes.
Moi, bien partagé en fait. D'un côté, je me dis que ça permet aux plus jeunes qui n'ont pas connu le jeu à l'époque d'y goûter tout simplement, parce qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de le faire. D'un côté, je me dis que c'est un peu pour les développeurs la solution de facilité, quoi.
Faire de l'argent facilement, remettre ça au goût du jour et retoucher la cagnotte.
Et ne prendre aucun risque, quoi. Parce que, en gros, moi, ce qui est intéressant quand même dans le vidéo, c'est qu'il se renouvelle de temps en temps, quoi. Et qu'il y ait des nouveaux concepts, comme on disait. Qu'il y ait des nouvelles choses qui se créent, parce que si c'est pour reprendre ce qui existe déjà, au final, à quoi.
Mais d'un autre côté, comme ça, nous autres rétro gamers, on se dit, on connaît des trucs modernes aussi.
Après, des fois, il y a des choses qui changent tellement que c'est un remake, mais ça l'est plus tout à fait, parce que c'est la manière de jouer, c'est plus facile au niveau des déplacements, je ne sais quoi. Enfin, des fois, t'as l'impression de.
Des fois, il y a des portages et des fois, il y a des remakes. Enfin, je veux dire, moi, je pense par exemple au premier Resident Evil sur GameCube, qui est totalement refait graphiquement, même aux des énigmes. Tu m'as aussi dit, tu m'as confirmé.
Les énigmes sont totalement différentes.
Alors qu'après, tous les suivants sont des portages, ils ont repris les mêmes jeux, les mêmes graphismes, mais ils ont juste adapté.
Tous sur DS, par exemple, tu peux avoir une vision différente et donner des coups de couteau avec le stylet.
Moi, je suis un peu comme Lionel, je suis un peu partagé par rapport à ce principe de remake. Des fois, je me dis, je suis quand même content. Ne serait-ce que pour avoir un portage ou quelque chose, je veux dire, voilà, si tu l'as pas découvert, effectivement, ça peut être une bonne chose, mais au final, je suis super, super partagé, comme pour les compilations de vieux jeux, parce que des fois, tu dis, ok, ça te fait économiser de l'argent. Par exemple, tu vois, ils vont te faire une compilation, je sais pas, des Fantasy Star. Tu vas acheter cette compilation, même en plateforme de téléchargement, ça va coûter moins cher que sinon tu vas chercher les cartouches originales machines. Ouais. Donc, il y a les deux côtés, avec un petit peu le côté collectionniste, tu connais le jeu, le côté tu veux voir l'objet ou pas. Moi, je suis vraiment partagé. Et selon les jeux, je pourrais pas dire que c'est toujours une bonne chose ou pas. Faudra voir au cas par cas.
Moi, après, un des portages les plus longs que j'ai vu, moi, c'est House of the Dead 2 et 3, les rééditions sur Wii. En fait, c'est une copie-collée de la version de la version Dreamcast de l'époque, quoi. Donc, enfin, ou même de la version arcade. C'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est, tu te dis, mais attends, les gars, ils ont rien retravaillé du tout.
Ouais, alors, des fois, attends, est-ce que le but, c'est de le retravailler ou est-ce que c'est de le faire découvrir à une nouvelle génération?
Tu te dis que tu peux, mais le problème, c'est que faire un truc comme ça, c'est mettre une barrière. La jeune génération, je pense pas qu'elle a envie de jouer à un jeu qui pique les yeux, quoi. Alors, le faire reconnaître, reprendre les mêmes substances, reprendre les mêmes trucs pour le refaire, mais l'améliorer au moins, ou au moins rajouter quelque chose, je sais pas, faut que moi je trouve que s'il y a du remake, il faut qu'il rajoute, qu'il redonne une quelque chose, qu'il remette la valeur au jeu. Alors un nouveau mode de jeu, quelque chose de plus, des nouveaux éléments, quelque chose en plus, sinon ça, à quoi bon.
Moi je suis
alors
vraiment partagé aussi là-dessus,
moi,
par rapport
le
à
jeu doit arrêter le jeu, quoi, si on parle.
Mais alors si tu restes le jeu, tu reprends le vieux jeu et tu te le
bah
et
oui, mais
vous,
est-ce que les jeunes peuvent?
Ouais, mais par rapport à la maniabilité, par exemple, tu vois, il parlait d'un jeu Wii, d'un jeu Dreamcast, la maniabilité n'a pas la même entre un jeu Wii et un jeu Dreamcast, même pour un jeu de tir. Donc là aussi, ouais. Moi je suis partagé, je veux dire, je vais souvent préférer aller vers l'original.
Pareil.
Voilà, moi pareil.
Parce que la latence qu'il y a avec la manette de la Wii est pas la même. Avec un jeu de pistolet, on vise à droite, ça vise à droite. Là, il y a le déplacement du truc, je trouve que c'est beaucoup plus lent et ça se gère beaucoup moins bien, par exemple, quoi, dans un jeu comme ça. Alors autant le réadapter, réadapter le jeu pour qu'il soit.
Moi je dis pourquoi pas, c'est pour faire découvrir aux gens, mais qu'après ils aient quand même envie d'aller vers le premier, pas que rester sur ça, mais sinon je suis pas spécialement partisan pour.
Après il faut avoir le courage de jouer deux
voilà,
fois.
Voilà, et il faut aussi connaître quelque chose, parce que moi là où je les ai plus appréciés, c'est quand je connaissais d'abord l'original et qu'après j'ai fait une réédition qui m'a apporté un truc en plus.
Enfin, un bien vaste débat, continuez-le sur internet. Nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour Doom 64 et retrouvez Soul Blade sur notre forum. Bisous tout le monde.
Salut, ciao, jouez bien la semaine prochaine.
M57 Radio.
M57 Radio.
Prestart.
Génération Prestart.
Game over.